mais quelle sorte de force peut-on appeler par la planchette et comment quelle sorte de force peut-on appeler par la planchette et comment le fait-on?
La quoi?
Planchette.
Oh, oh. Tu veux dire l'écriture automatique? Ça dépend des gens qu'ils font. Quelquefois, il n'y a pas de force du tout. Ce sont les vibrations mentales et vitales des gens qui font marcher la planchette. Et c'est leurs idées subconscientes qui font venir 90 fois sur 100. S'ils sont en rapport avec des entités invisibles, ça peut être toutes sortes de choses, mais rien de très recommandable. D'une façon presque absolue, on peut dire que ce n'est pas ce que les gens pensent, dans le sens que le plus souvent ils essayent d'évoquer ce qu'ils appellent l'esprit d'un mort, de quelqu'un qui, un membre de leur famille, ou un ami, ou enfin quelqu'un qu'ils aimaient, et avec qui ils veulent rester en rapport, et ils leur posent d'ailleurs les questions les plus imbéciles. Heureusement qu'ils ne réussissent pas à les déranger. À ce point de vue-là, on peut dire, si vous aviez quelqu'un avec une relation d'amour profond et sincère avec quelqu'un qui est parti, qui a quitté son corps, et que vous soyez vous-même dans un état de calme et de force suffisant, cette personne peut choisir de prendre refuge vitalement pour un temps plus ou moins long dans l'atmosphère, dans votre atmosphère, l'atmosphère de la personne qu'ils aiment. Dans ce cas, ça implique que la relation était très proche, très intime, et si vous n'êtes pas tout à fait matériel au point de n'avoir aucune perception mentale directe, vous pouvez rester en rapport mental avec cette personne et rester en communication avec elle. C'est un cas assez rare. Parce que généralement, si votre atmosphère est suffisamment calme et forte, qu'elle puisse vraiment servir de protection, la personne qui a quitté son corps y entre dans un repos profond qu'il est tout à fait mauvais de troubler. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'envelopper cette personne de votre amour et de la laisser tranquille. Par conséquent, même s'il était possible d'entrer en communication avec elle par ce moyen que je peux appeler de très grossier, il serait malséant de le faire. Mais généralement, les gens qui ont en eux les capacités, les facultés nécessaires pour pouvoir servir d'abri pendant un temps, un abri de transition à ceux qui sont partis, ces gens-là n'ont pas l'idée saugrenue de déranger le repos de celui qu'il aime en faisant tapoter une planchette. Heureusement. Mais ceux qui se livrent à cet exercice, qui est un exercice de curiosité malséante, ils ont ce qu'ils méritent. C'est-à-dire que l'atmosphère dans laquelle nous vivons est remplie d'une quantité de petites entités vitales qui sont le produit de désirs inassouvis, de mouvements, de vitaux d'un ordre tout à fait inférieur, aussi des décompositions d'êtres du vital plus important. Enfin, ça grouille, n'est-ce pas? C'est certainement une protection qui fait que la majorité des gens ne voient pas ce qui se passe dans cette atmosphère vitale parce que ce n'est pas extrêmement plaisant. Mais s'ils ont l'outrecuidance de vouloir entrer en rapport avec elle et qu'ils se mettent à vouloir faire de l'écriture automatique ou tourner des tables ou enfin, n'importe quoi de ce genre, par une curiosité malsaine, eh bien, c'est une ou plusieurs de ces petites entités qui s'amusent à leurs dépens et qui ramassent dans leur subconscient mental toutes les indications nécessaires et leur fournissent ça comme des preuves évidentes qu'ils sont la personne qu'ils ont appelée. Ça, je pourrais vous écrire un livre avec tous les, n'est-ce pas, les exemples que j'ai eus de ces histoires. parce que les gens sont très fiers quand ils font des choses comme ça, et ils écrivent tout de suite en donnant des preuves de la véracité de l'expérience, qui sont tellement saugrenues qu'elles devraient suffire pour leur montrer que quelqu'un s'est moqué d'eux. J'en ai eu encore un tout dernièrement. C'est quelqu'un, une personne qui s'était imaginée qu'elle était entrée en rapport avec Chirobido, qui leur a fait des révélations sensationnelles. C'était d'un comique achevé. Mais en tout cas, d'une façon générale, ce sont, ou le plus souvent, ce sont vos propres forces, vos forces mentales, vos forces vitales, que subconscientes, que vous mettez dans la planchette et vous vous faites à vous-même des révélations sensationnelles. On peut faire beaucoup de choses comme ça. Et il y avait un temps où justement je voulais prouver aux gens que ce qu'ils évoquaient n'était pas autre chose qu'eux-mêmes. J'ai fait des choses comme ça simplement par une concentration de volonté. De donner des coups dans les meubles, faire marcher des tables, et puis avoir de l'écriture automatique, vous n'avez qu'à reculer votre volonté consciente au-dedans de vous, laisser votre main, n'est-ce pas, comme ça, et puis laisser faire. Et alors la main se mettra à faire des mouvements. Puis alors, il y a un petit coin qui est intéressé et qui voudrait que ces mouvements aient un sens. Et ce petit coin fait appel à un subconscient mental qui se met à faire des révélations sensationnelles. Enfin, c'est un attrape-nigo, quoi. Toute l'affaire. À moins qu'on le fasse scientifiquement. Mais alors, scientifiquement, on s'aperçoit que ça ne mène à rien. Rien du tout. Car passez votre temps d'une façon que vous croyez intéressante. Il y a des cas où ce sont vraiment des entités vitales qui s'emparent de vous. Et là, alors, ça, c'est dangereux, mais heureusement, ces cas ne sont pas très fréquents. Alors, ça devient très dangereux. Il y a fort longtemps, quand j'étais en France, j'ai eu un exemple comme ça. D'un homme qui par des pratiques de ce genre s'était mis en rapport avec une entité vitale. Il se trouve que cet homme était un joueur et qu'il passait son temps à faire des spéculations et à jouer à la roulotte. Il passait une partie de son année à Monte Carlo et il y jouait à la roulotte et roulette. Et l'autre partie, il habitait dans le sud de la France et il faisait des spéculations dans la bourse. Et alors, il y avait véritablement quelqu'un qui se servait, c'était de l'écriture automatique, qui se servait de lui et qui pendant des années lui donnait des indications absolument précises, exactes. Quand il jouait à la roulette, il lui disait « mettez sur ce chiffre » ou « mettez sur cet endroit ». Et il gagnait. Naturellement, il était en adoration devant cet esprit qui lui faisait des révélations si sensationnelles. Et à la bourse, il lui disait aussi « jouez là-dessus » ou « jouez là-dessus » et lui donnait toutes les indications. Cet homme était devenu colossalement riche. Il se vantait à tous ses amis, n'est-ce pas, de la méthode par laquelle il s'était enrichi. Quelqu'un l'a mis en garde, lui a dit « faites attention ». Ça n'a pas l'air très honnête. Vous devriez vous méfier de cet esprit. Il s'est brouillé avec cette personne. Quelques jours après, il était à Monte Carlo et il jouait toujours gros jeu, n'est-ce pas, puisque forcément il gagnait toujours. Il faisait sauter la banque, on le craignait beaucoup. Alors l'esprit lui a dit, mets tout ce que tu as là-dessus. Il l'a fait, et d'un seul coup il a tout perdu. Et puis, il lui restait encore l'argent de ces spéculations boursières. Il s'est dit, c'est une malchance. Il a fait la même, il a reçu aussi une indication très précise, faite comme ça, comme d'habitude. Et il l'a fait tout nettoyer. Et pour finir, l'esprit lui a dit, il faut bien s'amuser, maintenant tu vas te suicider, tire-toi un coup de feu dans la tête. Et il était tellement soumis qu'il l'a fait. Voilà la fin de l'histoire. Et ça c'est une histoire authentique, je ne vous raconte pas des blagues. C'est comme ça. Alors le moins qu'on puisse dire c'est que c'est dangereux. Il vaut mieux ne pas se livrer à des occupations de ce genre. Non, c'est pas. Ou c'est des amusements qui n'ont pas beaucoup de sens, ou bien ce sont des occupations malsaines.
Shri Aurobindo il avait écrit le livre Yogic Sadhan comme ça.
Non, c'est pas du tout ça. Faut pas confondre les choses. Ah, c'est autre chose. Sri Aurobindo, il savait avec qui il était en rapport, il l'a fait volontairement, Et il a choisi la personne avec laquelle il était en rapport et ça n'avait rien à faire avec les petites entités dont je parle en ce moment. Pas du tout. Pas du tout. C'était quelque chose qui se passait dans le monde mental directement. Faut pas faire des confusions. Ça n'a aucun rapport. Rien du tout. On peut, si on a la connaissance, le contrôle, le pouvoir, et qu'on ait la capacité de se mettre dans des certains états de passivité, on peut très bien se prêter sa main à quelqu'un volontairement, sachant qui c'est, et dans un plan supérieur. Mais ça exige déjà une grande conscience et un grand contrôle sur soi qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut avoir un développement intérieur assez considérable pour pouvoir voir à qui on a affaire sur un plan spécial et se prêter volontairement à l'expérience en toute connaissance de cause et sans perdre son contrôle. Ce n'est pas n'importe qui peut s'amuser à faire ça. Tandis que pour faire marcher la planchette, il suffit seulement de se tromper soi-même suffisamment pour que ça marche.
Partie des sciences occultes, que cet emploi, ce procédé dont vous venez de parler dernièrement.
C'était simplement pour faire l'expérience. Ce n'est pas une bonne ligne d'approche, d'une façon générale, parce que dans le domaine intérieur, du développement intérieur, ça correspond aux besoins que les gens ont de lire des romans. Ceux qui n'ont pas un mental suffisamment développé, qui est encore dans un état fantomatique et à moitié inerte, ils ont besoin de lire des romans pour se réveiller. Ce n'est pas la preuve d'un état très recommandable, ou en tout cas très élevé. Eh bien ça, dans le domaine du développement intérieur, ça correspond à la même chose. C'est quand on est dans un état très rudimentaire, qu'on n'a pas de vie intérieure intense, on a besoin de lire des romans, ou de se fabriquer à soi-même des romans. Et alors on se livre à des expériences de ce genre et on croit qu'on fait des choses très intéressantes. C'est le même intérêt que les romans. Même ce que on appelle les romans feuilletons, pas des romans littéraires, mais des romans qui se publient à la dernière page des journaux. Ça. M. Bindo m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient besoin de ça parce que leur mental était tellement inerte que ça leur donnait des secousses comme ça et ça les réveillait un peu. C'est la même chose. Il y a des gens qui peuvent avoir besoin de faire des exercices de ce genre pour se réveiller un peu leur vital qui est somnolent et inerte. Ça leur donne un petit intérêt à la vie. Mais enfin, ça, on ne peut pas dire que ce soit des occupations de grande valeur. Ce sont des passe-temps, des amusements. Et ça n'a jamais servi à prouver quoi que ce soit à personne. On pourrait dire, oh, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une vie intérieure, une vie invisible, et que ça vous met en rapport avec des choses que vous ne voyez pas, et ça vous donne la preuve que ça existe. C'est pas vrai. À moins que vous n'ayez au-dedans de vous un être spirituel capable de s'éveiller et de vivre sa vie propre. Toutes ces choses ne vous apprennent rien du tout. J'ai connu des gens, j'en ai connu un spécialement, qui était un homme scientifique, intelligent, de valeur, qui avait fait les études supérieures au point de vue scientifique, qui était devenu un ingénieur et qui avait une position importante. Cet homme faisait partie d'une société qu'on appelle spirit et qui avait découvert un médium qui vraiment avait des capacités tout à fait exceptionnelles. Et il assistait à toutes les séances avec l'intention d'apprendre pour se convaincre et avoir des preuves tangibles de l'existence du monde, d'un monde invisible, d'une existence concrète et réelle d'un monde invisible. Il avait vu tout ce qu'on peut voir, avec le contrôle le plus sévère, de la façon la plus scientifique possible. Tous les contrôles étaient prévus, n'est-ce pas, jusque dans le moindre détail. Il m'a raconté les choses les plus extraordinaires qu'il avait vues. J'ai eu dans ma main un morceau de quelque chose qui ressemblait à ce que l'on fait maintenant, ces étoffes en plastique, n'est-ce pas, qui ne sont pas tissées, un morceau de plastique. Mais de ce temps-là, on ne faisait pas de plastique. Ça n'avait pas encore été découvert, il y a très longtemps. Je l'ai eu dans ma main, un morceau comme ça, déchiré, avec un petit dessin, qui était très joli. Il m'a raconté comment ça s'était passé. C'était quand le médium avait été mis en transe, il y avait une personne qui avait apparu, vêtue d'une robe comme ça. C'était une matérialisation. Cette personne avait passé devant lui, et comme une petite brute qu'il était, il a arraché un morceau pour avoir une preuve. Et il a gardé le morceau. Le médium a hurlé, et tout a disparu immédiatement. Mais le morceau était dans sa main, et il me l'a donné. Je lui ai rendu, il me l'a montré, simplement je l'ai eu dans la main. Eh bien, c'est pour vous dire, c'était une chose tout à fait concrète, n'est-ce pas? Puisque le morceau, il l'avait encore, il ne pouvait pas se dire que c'était une hallucination. Eh bien, malgré tout ça, malgré les histoires les plus extraordinaires dont on pourrait faire un livre, il ne croyait à rien. Il ne pouvait rien expliquer et il se demandait qui était fou, si c'était lui ou si c'était les autres, ou si c'était... Ça n'avait pas fait avancer sa connaissance de la moitié d'un pas. On ne peut croire à ces choses que quand on les porte en soi. Toutes les preuves extérieures que vous aurez ne vous donneront jamais une connaissance. Quand vous êtes vous-même développé intérieurement, que vous êtes capable d'avoir un rapport direct et interne avec ces choses, alors vous savez ce qu'elles sont. Mais aucune preuve matérielle ne peut, matérielle de ce genre, ne peut vous donner la connaissance si vous n'avez pas l'être au-dedans de vous capable d'avoir cette connaissance. Par conséquent, la conclusion, c'est que c'est tout à fait inutile. Parce que ceux qui ont un être intérieur, un jour ou l'autre, la vie se chargera de l'éveiller et de les mettre en rapport avec ce qu'il faut pour qu'ils sachent. Moi, je considère ça comme des curiosités malsaines.